Vous écoutez, on lit pour vous.
Les Autochtones ne doivent pas être oubliés au milieu des menaces de Trump, prévient l'APNQL. Un texte de Maura Forrest de la presse canadienne paru le 24 février 2024 dans Le Devoir. Les peuples autochtones risquent d'être mis de côté alors que le Canada cherche à se défendre contre une éventuelle guerre commerciale avec les États-Unis, affirme le chef sortant de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard. M. Picard, qui représente les Premières Nations du Québec et du Labrador depuis 1992, s'inquiète de la récente promesse du Premier ministre du Québec, François Legault, d'accélérer les projets d'énergie et de construction pour soutenir l'économie de la province face aux menaces tarifaires du président américain Donald Trump. Il semble que le gouvernement du Québec essaie de mettre en scène une réponse qui n'a aucune considération pour les peuples des Premières Nations et leur rôle, a-t-il déclaré dans une récente entrevue. Mais nous ne devons pas oublier le fait que nous devons nous asseoir avec les Premières Nations et obtenir leur approbation. Après plus de 3 décennies en tant que chef régional, M. Picard se retire à l'âge de 69 ans, affirmant qu'il a fait tout ce qu'il pouvait dans ce rôle. Son départ survient juste avant celui du Premier ministre Justin Trudeau, qui avait promis de faire de la réconciliation avec les peuples autochtones le cœur du programme de son gouvernement. Et cela survient dans un contexte de regain d'intérêt pour les grands projets de ressources, notamment les oléoducs, alors que le Canada cherche à réduire sa dépendance envers les États-Unis en tant que partenaire commercial. Même au Québec, qui s'est fermement opposé à tout nouvel oléoduc traversant son territoire, M. Legault a récemment indiqué que son gouvernement était ouvert à l'examen de nouveaux projets énergétiques. M. Picard a cependant souligné que les Premières Nations du Québec étaient totalement opposées à l'oléoduc Énergie Est, un projet visant à acheminer le pétrole de l'Ouest via le Québec et vers le Nouveau-Brunswick pour le transporter outre-mer, qui a été annulé en 2017 et à un grand projet de GNL, gaz naturel liquéfié, que le Québec a rejeté en 2021. Évidemment, le contexte d'il y a 5 ans n'est pas celui que nous voyons aujourd'hui, a-t-il mentionné. Mais il est certain que l'on ne peut pas affirmer que ces projets iront de l'avant sans prendre en considération le rôle que les Premières Nations devront jouer. M. Picard attribue à Justin Trudeau le mérite d'avoir pris un véritable engagement envers les peuples autochtones lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2015, mais a avancé que cet engagement a été abandonné ces dernières années. Il semble que, lorsque les choses se compliquent, les questions autochtones semblent facilement être mises en veilleuse, a-t-il fait valoir. Au cours des premières années du gouvernement libéral, M. Trudeau déclarait souvent qu'il n'y avait aucune relation plus importante que celle avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits. « C'est quelque chose que je n'ai pas entendu depuis un certain temps », a affirmé M. Picard. « Il semble que nous soyons toujours pris dans une situation où nous devons rappeler aux gens que nous sommes là, que nous existons. » Selon M. Picard, les dirigeants des Premières Nations surveillent de près le chef conservateur Pierre Poilievre, qui pourrait devenir premier ministre lors des élections fédérales de cette année, selon les sondages. Il y a peut-être encore des doutes dans la population, car les années Harper n'ont pas toujours été les meilleures, a-t-il expliqué, faisant référence au gouvernement de l'ancien premier ministre Stephen Harper. Si M. Poilievre cherchait à ressusciter des projets de combustibles fossiles comme Énergie Est, cela pourrait provoquer des débats internes au sein des communautés autochtones, croit M. Picard. Des luttes pour les droits. Au fil des ans, Ghislain Picard a été à l'avant-garde de nombreuses luttes pour faire progresser les droits des Autochtones au Québec. Il a admis que certaines d'entre elles ont eu des conséquences personnelles. Il a cité Joyce Echaquan, une femme atikamekw décédée dans un hôpital de Joliette, au Québec, en 2020, après qu'elle eut enregistré le personnel de l'hôpital lui lançant des insultes racistes. Une enquête du coroner a révélé que le racisme et les préjugés ont contribué au décès de Mme Echaquan, et a recommandé au gouvernement du Québec de reconnaître l'existence du racisme systémique. François Legault a toutefois nié à plusieurs reprises l'existence du racisme systémique dans la province. Ce sont des moments clés des dernières années qui m'ont évidemment affecté en tant qu'individu, a expliqué M. Picard, ajoutant que le gouvernement du Québec n'a pas offert une vision globale de son approche des questions autochtones. Il ne nous donne aucun sentiment de confiance. Malgré tout, M. Picard a mentionné que les Premières Nations du Québec ont fait des progrès ces dernières années, notamment en ce qui a trait à la réconciliation économique. Hydro-Québec a notamment promis que les communautés autochtones seraient partenaires de nouveaux projets énergétiques alors que le service public cherche à doubler sa capacité. L'engagement semble être là, a indiqué M. Picard. C'est certainement plus inspirant que la relation à laquelle nous sommes habitués. Une page tournée. Ghislain Picard est né dans la communauté Innu de Pessamite, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Dans les années 1980, il a contribué à la création d'un réseau de stations de radio communautaires diffusant des émissions en langue autochtone avant d'être nommé vice-président du Conseil Atikamekw-Montagnais en 1989. Il a été élu pour la première fois par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador en 1992 et termine actuellement son 11e mandat de chef régional. « Je n'ai jamais eu l'intention d'en faire une carrière », a-t-il expliqué. Avant chaque élection, il se demandait « Ai-je encore l'énergie? Suis-je toujours déterminé? » Et chaque fois que je posais ces questions, la réponse était toujours oui. Il a maintenant décidé de tourner la page. Peut-être que la sagesse et la raison ont prévalu, a-t-il avancé. « Je quitte ce poste à mes propres conditions, en ayant le sentiment d'avoir fait tout ce que je pouvais faire dans les conditions. Malgré la frustration de devoir composer avec des gouvernements fédéraux et provinciaux hésitant à s'engager envers la réconciliation, M. Picard se dit optimiste lorsqu'il revient sur les 30 dernières années. Je pense, très humblement, que la plus grande réussite serait peut-être que les problèmes autochtones ne soient plus si faciles à éviter, a-t-il souligné. Nous devons simplement continuer à nous rappeler que nous devons maintenir le cap et rester vigilants. Nous devons continuer à assurer cette place pour nos peuples, a-t-il ajouté. 4 candidats sont en lice pour remplacer M. Picard, Constant Awashish, grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Cathy Martin, membre du Conseil du gouvernement Mi'kmaq de l'Istouguij, Monique Kistabish, chef de la Première Nation Abitibi-Wéni, et Francis Véropol, chef de cabinet de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Les chefs des 43 communautés représentées par l'Assemblée éliront début mars leur nouveau chef régional. Note du lecteur, Francis Véropol a finalement été élu. C'était « Les Autochtones ne doivent pas être oubliés au milieu des menaces de Trump », prévient l'APNQL, un texte de Maura Forrest de la presse canadienne paru le 24 février 2024 dans Le Devoir.
Comment faire des brassées plus écologiques? Un texte de Chloé Bourquin paru le 7 mars 2025 dans La Presse. Si on veut laver son linge de façon plus écolo, par où commencer? Demande Diane, une lectrice. Température de l'eau? Temps de séchage? Quantité de lessive utilisée? Fréquence à laquelle on lave son linge? Mine de rien, de nombreux facteurs peuvent jouer sur l'empreinte de nos brassées. Mais quand on pose la question à deux expertes en analyse de cycle de vie, une réponse ressort. Le principal paramètre à considérer, c'est l'énergie qu'on utilise pour chauffer l'eau et pour alimenter la laveuse et la sécheuse. Souvent, quand on se concentre uniquement sur le produit qu'on achète, on passe à côté du plus important. Un petit emballage versus l'utilisation d'énormément d'énergie, d'eau à chauffer. C'est logique, mais souvent on oublie cela. Souligne Jasmine Azrak, analyste au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIRAIG. Pour les ménages qui chauffent encore l'eau au gaz ou au mazout, ça explose leur empreinte environnementale, précise-t-elle. 200 000. Nombre, environ, de ménages québécois qui possèdent encore un appareil de chauffage au mazout. Source, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, 2021. Moins d'eau, moins chaud. Si on utilise de l'hydroélectricité pour alimenter ces appareils et pour chauffer l'eau, d'autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte. On peut choisir une laveuse plus efficace, qui utilise moins d'eau et moins d'électricité. Détaille Jasmine Azrak. Par exemple, les machines frontales utilisent moins d'eau que celles à chargement par le haut. Et les appareils certifiés Energy Star sont plus efficaces quant à l'utilisation d'électricité. Ensuite, on peut privilégier les lavages à l'eau froide et faire de plus grosses brassées, moins fréquentes, pour rentabiliser chaque utilisation de notre machine. Et si possible, mieux vaut privilégier le séchage à l'air libre plutôt qu'à la sécheuse. La sécheuse, c'est toujours un paramètre qui ressort très fortement dans les analyses, souligne Annie Levasseur, professeure en génie de l'environnement à l'École de technologie supérieure, ETS. Un détergent plus vert? La question du choix du détergent a également été posée par une lectrice. Vaut-il mieux privilégier les dosettes, pods, ou les bidons de détergent liquide? C'est difficile de donner une réponse générale, indique Annie Levasseur. Chaque option présente des avantages et des inconvénients. Les dosettes sont plus chères, mais elles permettent généralement de diminuer la quantité de détergent qu'on utilise pour chaque brassée, parce qu'on a souvent tendance à avoir la main lourde lorsqu'on dose la lessive liquide. Cependant, la composition de leur membrane est de plus en plus remise en question, puisqu'elle libère dans l'eau du PVA, un polymère plastique synthétique dérivé du pétrole qui serait, a priori, biodégradable. De son côté, le détergent liquide nécessite de transporter beaucoup d'eau, contrairement aux dosettes. Une autre option pourrait être d'aller vers une lessive en poudre, vendue dans une boîte en carton, mais cette option est de plus en plus difficile à trouver sur les tablettes des commerces. De façon générale, on peut essayer d'aller vers des détergents dont la composition est plus verte et moins dommageable pour l'environnement, voire en vrac, pour limiter l'emballage. Sur son site, la Fondation David Suzuki propose également des recettes pour fabriquer chez soi du savon à lessive respectueux de l'environnement. Mais ça va vraiment avoir un effet moins fort que l'énergie utilisée, insiste Annie Levasseur. Gare aux gargouilles et aux noix. Des publicités pour des balles de plastique contenant des billes de céramique, appelées des gargouilles, fleurissent depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Elles sont vendues comme des produits révolutionnaires qui permettent de laver le linge sans détergent. Un reportage de l'émission La Facture sur Ici Télé a toutefois montré que celles-ci ne sont pas plus efficaces qu'un simple lavage à l'eau. Même chose du côté des noix de lavage. Riches en saponines, elles sont censées produire une mousse au contact de l'eau qui laverait les vêtements. Mais des tests du magazine Protégez-vous ont donné des résultats identiques à un lavage à l'eau. Moins de microplastiques dans l'océan. Une dernière chose à considérer quand on lance une brassée, les microfibres synthétiques libérées par nos vêtements. Elles constituent la majeure partie des microplastiques qu'on trouve dans les océans, selon un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Pour limiter le relargage de ces microplastiques dans l'eau de lavage, on pourrait songer à mettre un filtre sur sa laveuse. Mais ce genre de filtre est encore peu pratique à nettoyer, ce qui peut décourager les utilisateurs. L'idéal reste donc de limiter à la source. On peut, par exemple, réduire le nombre de lavages de nos vêtements en les portant plus longtemps avant de les laver, privilégier les vêtements de seconde main, car c'est durant ces premiers lavages qu'un vêtement relâche le plus de microplastiques, et opter pour des tissus faits de fibres naturelles plutôt que synthétiques. Éviter d'utiliser la sécheuse et laver à l'eau froide prolonge la durée de vie de nos vêtements et limite la quantité de microfibres qui s'en détachent. Une pierre deux coups pour l'environnement. C'était Comment faire des brassées plus écologiques? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 7 mars 2025 dans La Presse.
Charles Milliard, le renouveau enraciné du PLQ. Une entrevue réalisée par Samuel Rochelle, parue le 23 février 2025 dans le magazine Fugue. Le 13 janvier dernier, Charles Milliard se lançait officiellement dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, en présentant le plus naturellement du monde son conjoint. Une rareté dans le paysage politique québécois. Fugue l'a rencontré pour découvrir son parcours. Quelle place occupait l'implication citoyenne dans votre jeunesse? Vers 17-18 ans, je m'impliquais dans la commission jeunesse du PLQ. J'ai fait du bénévolat dans un service d'écoute pour aider les personnes seules ou avec des pensées suicidaires. À l'université, j'ai aussi été président de l'Association canadienne des étudiants en pharmacie. Pourquoi vouliez-vous devenir pharmacien? C'est la relation d'aide dans sa plus belle expression. On est sur le bord de la rue, en première ligne pour aider les gens et écouter des problèmes dont on ignorait l'existence 2 minutes plus tôt, car les personnes n'avaient pas rendez-vous. Il y a une sorte d'instantanéité dans la relation qui m'a toujours plu. Mon frère, de 11 ans mon aîné, est pharmacien et propriétaire d'une pharmacie en Mauricie. Je l'ai vu grandir là-dedans et il a été une inspiration. De quel genre de famille êtes-vous issu? Ma famille vient de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Je suis né en 1979 à Lévis, où j'ai vécu durant 22 ans. J'ai étudié à Québec. Ma mère était professeure de français et de théâtre dans le système public. Elle était même directrice d'école quand j'étais à la polyvalente, ce qui créait des situations intéressantes. Mon père était charpentier-menuisier. Il a contribué à construire presque tous les centres commerciaux à Québec. On était une famille de classe moyenne où on n'a jamais manqué de rien. Je n'étais pas prédestiné à la politique. C'est moi qui apportais le sujet à la table constamment. À quoi ressemble votre parcours d'acceptation de votre orientation sexuelle? Je parle rarement de ça en entrevue, mais je suis ouvert à le faire. Je l'ai eu vraiment facile. Je n'ai pas vécu de problème. Je ne l'ai jamais caché, mais je n'ai jamais écrit un courriel ou un communiqué de presse pour en parler. Ça a toujours été une partie de moi, mais pas un élément de différenciation. Je suis la preuve qu'il y a de belles histoires qui existent dans un processus comme celui-là, même s'il y en a encore beaucoup trop de mauvaises. Vous avez été impliqué avec les jeunesses progressistes conservateurs au début des années 2000. Comment expliquez-vous cette association à des lecteurs LGBTQ+, qui voient les partis conservateurs comme une menace pour leurs droits et pour leur survie? J'étais impliqué avec Jean Charest et Joe Clark au fédéral de 1997 à 2003. Le parti n'existe plus aujourd'hui. Il était ce que je veux représenter en politique, le portefeuille à droite et le cœur à gauche. On parlait de politiques économiques, de rigueur budgétaire et de respect de la capacité de payer de la population, avec des recettes fiscales qui peuvent financer des programmes, faire vivre le modèle québécois et le filet social. Il y a quelque chose d'intéressant dans la droite économique, mais quand on parle de droite sociale, je ne suis pas là du tout. Rien, zéro, nada. En quoi vos expériences professionnelles peuvent-elles vous servir en politique? En pharmacie, j'ai développé mon écoute et ma capacité à trouver des solutions. Ça peut sembler ésotérique, mais un politicien est quelqu'un qui doit représenter le peuple, l'écouter et matérialiser ce qu'il entend. Aussi, avoir une expérience dans le réseau de la santé, alors qu'il s'agit du plus gros budget du Québec, ce n'est pas vilain. Au PLQ, on a eu des médecins comme Gaëtan Barrette, Yves Bauduc et Philippe Couillard, mais rarement d'autres profils de politiciens issus de la santé. Et votre présidence de la Fédération des chambres de commerce du Québec? Je commentais énormément l'actualité et on essayait d'influencer les politiciens. Je disais souvent que je faisais de la politique sans être élu et que personne ne me détestait. Avec le recul, même si ce n'était pas planifié, je réalise que c'était un excellent terrain de pratique pour la politique. Ça fait 25 ans que je me promène à travers le Québec. Quand je dirigeais les pharmacies Uniprix, il y en avait 400 partout en province. Il y a 125 chambres de commerce et je les ai toutes visitées. Les galas, les remises de prix, les rencontres de MRC, j'y suis allé. Ça m'a permis de créer un réseau assez puissant. Et mes adversaires le savent. Quelle est votre vision? Je veux représenter le renouveau enraciné. On est à la fin d'un cycle politique au Québec. On doit renouveler le PLQ, qui est le plus vieux parti du Québec. Il a été fondé en 1867. Pourtant, il est encore en danger. Il faut réussir à donner les clés du parti à une nouvelle génération, comme le Parti québécois a réussi à le faire avec Paul Saint-Pierre Plamondon, et comme la CAQ ne réussira probablement pas à le faire, selon moi. Et vos idées? Je veux parler d'enjeux de table de cuisine. Je ne veux pas que la campagne porte seulement sur la laïcité, l'immigration et la langue, qui sont des sujets importants, mais sur lesquels nos opposants veulent toujours nous ramener. Au PLQ, on veut rassembler tous les Québécois, alors c'est sûr qu'on a des positions moins clivantes que les autres. En gros, je veux parler de la santé de nos PME, de la vitalité des centres-villes dans les régions du Québec, de transport pour accéder au territoire québécois pour le développer et de culture. J'ai été largement impliqué dans plusieurs organisations culturelles, FTA, Festival de la Naudière, OSM. J'ai beaucoup d'amis dans le milieu qui ne sont pas toujours libéraux, mais qui savent que le milieu artistique sera bien représenté avec moi. La revue du statut de l'artiste est un enjeu important. Votre regard sur le monde est-il influencé par le fait que vous appartenez à une minorité? C'est une des questions les plus intelligentes qu'on m'a posées dans les dernières semaines. Quand tu fais partie d'une minorité ou que tu connais des gens qui en font partie, tu vois le monde différemment. Je suis inquiet quand je vois le glissement des enjeux sociaux, quand il est question des minorités sexuelles et de genre, religieuses, culturelles. Le gouvernement doit être un rempart contre la marginalisation de toutes sortes. En ce moment, la marque de commerce du gouvernement, c'est « diviser pour régner ». Je n'aime pas leur trame de fond. Par exemple, le fait que le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie relève du ministère de la Condition féminine, ça brouille les lignes par rapport aux attentes de la communauté. J'aimais bien que ce soit sous l'égide du ministère de la Justice, parce que ça implique souvent la justice légale et sociale. Quels enjeux touchant les communautés LGBTQ+ vous préoccupent? Certains enjeux de perception et d'autres pragmatiques. Par exemple, le VIH. Si on redoublait d'efforts en prévention et en pédagogie, ça pourrait être derrière nous dans quelques années. On a laissé l'élastique s'étioler, parce que ce n'est plus mortel ou presque. J'aimerais qu'on retourne à un sentiment d'instabilité à ce sujet et qu'on soit plus aux aguets. Également, il faut des leaders qui rassemblent sur plusieurs enjeux LGBTQ+, mais on a malheureusement un contre-exemple au sud de la frontière. Que pensez-vous du comité des sages qui n'inclut pas de personnes trans et non-binaires? Des gens X qui parlent d'un problème Y, c'est rare que ça donne une bonne solution Z. C'est la même chose quand on parle d'enjeux religieux ou financiers. Lorsqu'un groupe de personnes à Montréal décide de ce qui est bon pour les régions du Québec, ça crée une frustration similaire. Comment avez-vous impliqué votre conjoint dans la réflexion sur la course à la chefferie? Je n'ai jamais caché mon intérêt pour la politique. Je ne savais pas quand ni comment, mais il ne s'est pas réveillé un matin très surpris de ça. Il me supporte à 100%. C'est un immense engagement de temps, financier, émotionnel et réputationnel. Qui est-il? Il s'appelle Simon. On est ensemble depuis 3 ans. Il travaille dans le milieu de l'assurance. Il est originaire de la Mauricie. On habite en Estrie et on visite nos proches à Lévis et à Trois-Rivières. Alors, on n'est pas des touristes quand on se promène au Québec. Hors du travail, quel genre de personne êtes-vous? J'aime beaucoup lire, aller au théâtre et suivre l'actualité. Avec la pandémie et la quarantaine, je suis devenu plus sportif. Je me suis mis au ski, je joue au curling, un sport largement méconnu et très intéressant. Je suis un gars de famille. Je suis sensible et je m'intéresse aux gens. J'ai une bonne intelligence émotionnelle. C'est une denrée rare dans la vie et je suis fier de l'avoir. Je croise tellement de gens qui se foutent de ce que les autres pensent. Je me trouve privilégié de ne pas être comme ça. C'était Charles Milliard, le renouveau enraciné du PLQ. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 23 février 2025 dans le magazine Fugue.